toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Pixel.
Thank you very much.
D'ATH.
Hello, everybody.
Oh putain, ça va pas être... De Morgan.
Bonjour tout le monde.
Et de Ben.
Salut à tous.
Donc, par ces interventions, Pixel et Ben vous ont signifié... Enfin, Pixel et...
Et Ben.
ATH assume, si. Donc, Pixel et ATH vous ont signifié que le 3 était passé, probablement, au moment où vous écoutez cette émission. Et évidemment, ils nous faisaient une petite imitation de Yves Guillemot. Pour répondre à certaines personnes qui demandaient qu'est-ce qu'on allait faire pour le 3, bah comme d'hab, rien, quoi. C'est-à-dire que s'il y a des trucs intéressants, on en parlera. S'il y a des trucs pas intéressants, on n'en parlera pas. Voilà.
À préciser que cette émission a été enregistrée avant le début des conférences de l'E3.
Oui, évidemment.
D'où l'actualité dont on va parler aujourd'hui.
Tout à fait. Allez, au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera de Monster Boy. On enchaînera ensuite sur Red Faction Remastered. On parlera de Hitman 2, de Crackdown 3, de Fear the Wolves, de Tennis World Tour et enfin de Valve qui assume enfin sa connerie. Et bien évidemment, on terminera sur le jeu du moment, ou plutôt, je sais pas si on peut appeler ça une preview, vu que le jeu c'est en bêta, et c'est un jeu qu'on a déjà testé. On va vous parler du mode multi de Stardew Valley, tout simplement. Mordran et Ben s'y sont collés, hein. Comme par hasard, les mecs qui aiment récolter des trucs, voilà, ce genre de choses. Pourquoi je ne suis pas étonné, voilà. Bon, on va commencer, messieurs, avec Monster Boy and the Cursed Kingdom, qui a dévoilé un petit trailer avant l'E3, et j'avais une chose à dire. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est sexy.
Voilà, c'est la fin de la news, à bientôt. Oui, non, c'est vrai que c'est très joli, et ce qui est frappant, c'est le côté avant-après.
Parce qu'il y avait eu des vidéos qui avaient été diffusées il y a un moment, il y a quand même eu une évolution.
Ouais, il y a vraiment eu une évolution, notamment sur les sprites des personnages principaux. Tu sens vraiment qu'il y a une inspiration encore plus animée que ce qui était présent avant. Et là où c'est intéressant, c'est que Monster Boy in the Cursed Kingdom s'est certes inspiré d'un Wonder Boy, mais c'est aussi une aventure en fait complètement inédite, ce qui n'était pas le cas du tout de Wonder Boy and the Dragon's Trap, qui était pour le coup très très bien et très très joli au demeurant, mais qui n'était qu'en fait un remake. Donc là, ça peut être intéressant d'avoir justement ce qu'ils ont à nous proposer d'original, et en plus avec un enrobage qui est magnifique, donc c'est plutôt cool.
Un jeu qui tournera sur Nintendo Switch de Mordren, à oui. N'en pas douter. Et tout comme toi, Mordren, moi je tiens à saluer le virage anime qui a été pris. Parce que je sais pas pour toi, mais je trouve que ça faisait un peu jeu téléphone avant. Enfin, c'était un peu trop lisse, ça manquait un peu de peps, quoi. Et là, les dernières vidéos, les animations, tout ça, c'est quand même bien sexy.
Ouais, non, c'est très cool. Après, moi j'aimais bien aussi Dragon's Trap, mais c'est intéressant de voir aussi qu'ils testent des nouvelles choses. Donc pourquoi pas.
Je précise au passage qu'il n'y a pas de date de sortie annoncée, donc on attend ça avec impatience, et ça sortira évidemment sur toutes les consoles possibles imaginables, hein, Xbox, Switch, PS4, j'ai un doute pour le PC par contre.
Il me semble que Dragon's Trap était sorti sur PC, donc a priori il ne devrait pas y avoir de problème.
Ah mais c'est pas le même studio qui les s'en occupe.
Non, c'est
parce
pas
que Dragon's
studio.
Trap c'était des Français.
Bon, non mais là aussi c'est des Français, hein, soit dit en passant. Oui, c'est des Français.
C'est difficile à suivre quand même cette histoire.
Bah en fait il y a deux studios français qui se sont attelés à la licence Wonder Boy, c'est tout. Donc ça sortira sur PC, PS4, One et Switch.
Et micro-ondes aussi.
Voilà, exactement. Allez. On va enchaîner sur une bonne nouvelle, Pixel.
Ouais.
Du côté du remaster de Red Faction.
Ouais, alors récemment, THQ Nordic a annoncé que la version donc remasterisée, ou plutôt remastered édition, je le dis à la guillemot, qui sortira le 3 juillet, 2018, verra sa version PC gratuite pour les possesseurs de la version originale sur Steam. Donc ça fait plaisir, hein. C'est clair que c'est pas Namco Bandai avec Dark Souls qui vont faire ce genre de choses, hein.
C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est juste la news. Tiens, prends ça Namco Bandai, quoi. Allez regarder la vidéo qu'on va vous mettre dans les liens de l'émission et comparer à l'original. Alors, certes, c'est pas ouf d'un point de vue technique, mais quand tu vois l'original, tu vois qu'il y a eu du taf, quand même. Voilà. Au moins, ils se sont sortis un peu les doigts du cul. Ce qui n'est pas le cas de Namco Bandai.
Oh là là, la petite quenelle placée comme ça.
Bah en même temps, c'est le seul unique but de cette news, hein. En vrai, je vais pas vous
c'était
mentir.
C'était la news trolling.
Voilà. Non, parce que bon, j'aimais beaucoup Red Faction, mais personnellement, pourquoi pas, mais il y a tellement de jeux à faire que ça me branche pas plus que ça. Mais comme d'habitude avec les remasters, hein, ce n'est pas exclusif à celui-là, n'est-ce pas? Allez, on va maintenant parler de Hitman 2, Ben.
Oui, bah on a eu de nouveau une bonne nouvelle, c'est que Hitman 2 va sortir cette année sur PC, PS4 et Xbox One pardon, à la date du 14 novembre. Mm-hmm. À noter que c'est une suite directe du premier, mais qui ne sera pas épisodique comme celui-là, donc c'est une double bonne nouvelle à vrai dire.
Et tout à fait.
En plus de ça, une autre bonne idée, c'est qu'il y aura une sorte de mode coop.
Et là, Ben, un coop, vite, Ben.
Non, faut arrêter. Non, mais c'est totalement nouveau pour ce jeu. Ça s'appellera le mode Sniper Assassin. Et donc, ouais, ça sera un mode coop pour Hitman.
ATH.
J'achète. Là, le fait que déjà le jeu soit comme un jeu classique, on va dire, avec tout le contenu de base, c'est chouette. Et puis, j'ai envie de voir ce que ça va donner aussi, le mode coopération sur un jeu tel que Hitman. Et puis, enfin, IO, ils avaient fait du bon boulot sur le dernier, donc je pense pas qu'ils vont foirer celui-ci.
Mais est-ce que t'as pas peur que... Comment t'expliquer ça? Le précédent Hitman, le fait qu'il soit épisodique, ça les a aidés à améliorer le jeu. Est-ce que t'as pas peur, du coup, que la qualité baisse du fait que ce soit une sortie normale?
Pas du tout. Là, ils vont sortir leur Hitman 2... avec déjà ce qu'ils ont appris, c'est pas comme si l'expérience ça revenait à zéro, on n'est pas dans un RPG, tu vois, ils ont pas oublié ce qu'ils ont fait entre-temps. Mm-hmm. Moi, mon Hitman préféré, c'est Hitman Blood Money. Hitman Blood Money, c'est un jeu complet, quoi, qui était pas sorti en format épisodique, et c'est juste une bombe, quoi, parce que les mecs, ça fait longtemps qu'ils sont sur la licence, tu vois qu'au fur et à mesure des épisodes, les mecs, ils ont progressé, et je pense que, tu vois, le format épisodique, c'était plus une volonté de Square Enix que de IO Interactive, quoi. Et là, tu vois bien qu'une fois qu'ils ont repris les mains sur le bébé, ils reviennent aux bases. Et moi, je suis plutôt content parce que voilà, c'est le format que j'aime. J'ai pas envie d'attendre 2 mois entre chaque épisode. J'aurais oublié ce que j'ai fait dans le mois précédent. Là, vraiment, le fait que ça soit un jeu qui soit complet, ça me donne envie de l'acheter le jour de sa sortie, quoi.
De toute façon, c'est un peu ce que je disais avec Telltale. Enfin, l'épisodique, sérieux, qui fait encore ça aujourd'hui, quoi. Surtout Hitman, un jeu d'infiltration. Pour moi, c'était une absurdité dès le départ. Donc, qu'ils aient viré ça, très bonne nouvelle. Précisons au passage que le jeu est édité par Warner Bros. Interactive, donc on espère qu'ils feront pas les mêmes boulettes que Square Enix, notamment leur laisser finir leur jeu. On en reparlera tout à l'heure avec Tennis World Tour. 10 heures. D'ailleurs, un autre jeu qui est pas fini, justement, hein, c'est Crackdown 3.
Est-ce qu'il a commencé celui-là? Parce que là...
Ouais, parce qu'à force, on finit par se poser la question quand même. Il a été annoncé en quelle année? Je crois 2014, officiellement.
Oh, facile.
Ouais, pas, c'est
même
par
2013,
là,
ouais. Je pense que lors de l'annonce de la Xbox One, en fait.
Ouais, je me demande aussi hein, si c'était pas
c'est
déjà
pas
le cas.
Ouais. Ouais. Donc, ça fait un moment que le jeu a été annoncé. Et bah c'est pas encore pour cette année. Hein, et j'ai envie de dire, bon, d'un côté, c'est inquiétant. Parce que vu le nombre de fois que le jeu a été reporté, ben voilà. De l'autre, vu ce qu'on avait vu à l'E3 dernier, putain, heureusement, parce que je sais pas si tu te rappelles, à TH, on avait vu assister à une petite conférence où il y avait notamment un trailer où t'avais l'impression de voir un jeu du niveau technique de Jet Set Radio, tu vois. Alors Jet Set Radio, c'était très chouette sur Dreamcast, mais sur Xbox One, ça la fout un peu mal quand même, quoi. Il y avait plus du tout de moteur physique, il y avait plus du tout de destruction. Bref, on se demandait bien ce qu'ils allaient faire de ce jeu. Bah visiblement, ils l'ont reporté à l'an prochain, pour février. Pour le moment. Voilà, Morden.
Ouais, alors c'est une question que je me pose, et vous allez me dire si c'est méchant ou pas, mais est-ce que c'est vraiment une licence qui intéresse les joueurs, ou c'est juste parce que c'est une des dernières exclus Xbox One, qu'on en parle encore de ce jeu, ou en fait je me trompe, et c'est juste moi qui m'intéresse pas du tout à ce jeu?
Bah alors, moi je vais te donner ma version. Crackdown sur Xbox 360, c'était un des jeux quasiment au lancement de la console, qui avait bien fonctionné. Et il me semble que Crackdown 2, c'était un jeu qui était complètement passé à côté de son sujet. Là, on s'intéresse parce que c'est une dernière licence qui reste exclusive à Microsoft, en fait, tu vois.
D'accord.
Et puis, la promesse de départ aussi.
Oui.
Qui était intéressante.
La promesse dans le
mais
cloud.
Mais elle était intéressante, voilà.
Ouais. Mais bon, après, Microsoft aura vu sa copie. Ce qu'ils ont montré l'année dernière et puis les années précédentes, c'était pas du tout rassurant. Il y a des journalistes qui ont pu tester des versions de jeux qui disaient que c'était quand même assez laid pour de la Xbox One. Par contre, le moteur physique avait l'air assez convaincant. Nous, on l'a jamais vraiment vu en action parce qu'apparemment, il fallait synchroniser sur des serveurs multijoueurs pour qu'on puisse le voir à l'œuvre. Moi, j'ai l'impression quand Phil Spencer me dit que Halo 3 il va faire une grosse annonce de jeux exclusifs Xbox, j'ai l'impression qu'on va revoir les Halo, les Gears of War et les Forza en fait. Et puis Crackdown.
Ça sera des jeux indés en exclusivité temporaire et vous le savez tous.
Ouais, et puis c'est vrai que Microsoft, ils avaient quand même eu la bonne idée de miser sur Cuphead qui avait bien fonctionné. Donc ça c'était cool, mais ça manque un petit peu d'impact tout ça quoi.
Moi, je parie sur un gros E3 de Microsoft. Vous voyez, je m'engage. Hein, Là, ça se trouve, le podcast, il sort mercredi. Je vais avoir l'air totalement ridicule. Ça sera de la grosse merde. Mais
tu vas le couper au montage, ouais.
Pourquoi je pense qu'ils vont faire un gros E3 ? Parce qu'il y a leur annonce d'abonnement, etc. Et que, je sais pas, une offre d'abonnement, à un moment donné, si tu veux qu'elle marche, il faut des jeux.
C'est
il y a pas 36 000 solutions quoi. Je veux dire, tu vas pas faire une offre d'abonnement avec des jeux multi quoi, c'est pas possible. Ouais.
Puis il y a aussi le fait que Phil Spencer à l'époque avait déjà explicitement parlé d'originaux Xbox à la manière de Netflix Originals. A priori, c'est ça qu'il veut faire avec son système d'abonnement. Donc au bout d'un moment, oui, effectivement, il faudrait dire oui, bah il va y avoir des trucs qui sont exclusifs à notre formule d'abonnement. Et ça serait peut-être le bon moment pour en parler effectivement.
Après je dis qu'ils vont annoncer des trucs, hein. Je dis pas que ça va sortir cette année, hein.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr.
Oui. Allez, on enchaîne avec Fear the Wolves, Pixel.
Ouais, alors, Fear the Wolves, c'est un jeu qui est développé, en fait, par Vostok Games. Alors, Vostok Games, si vous savez pas, c'est un studio de développement qui est composé, entre autres, d'anciens développeurs d'un FPS qui s'appelle le Stalker. Je connais pas, ça va être un petit jeu sorti il y a des années. Et qui ont développé aussi un FPS freemium multijoueur il y a quelques années qui s'appelle Survarium.
Soit dit en passant, il est toujours en développement, je tiens à préciser.
Oui, 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 oui. Il est toujours en développement.
Il est pas sorti officiellement, voilà. C'est un peu douteux quoi comme développement Survarium.
Bah, c'est un freemium, donc forcément, il est pas fini. Et là, il y a pas longtemps, ils ont balancé un trailer pour le 3 d'un nouveau jeu, un nouveau FPS, comme Survarium, qui se passe à Tchernobyl à peu près comme Survarium, qui est multijoueur comme Survarium, sauf que là, en fait, c'est juste un basic Battle Royale en mode FPS.
Oh, quelle originalité!
Voilà, donc c'est plutôt un Battle Royale avec une skin Stalker. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'il y aura jusqu'à 99 joueurs par session, et qu'il y aura des anomalies, et qu'il y aura des monstres modifiés par la radioactivité ambiante, et c'est à peu près tout. Il y aura une Early Access qui commencera cet été. Le plus dérangeant, en fait, c'est que Vostok Games va s'auto-concurrencer parce qu'ils ont deux jeux qui se déroulent dans le même univers post-apocalyptique soviétique, on va dire, qui sont tous les deux des jeux multijoueurs, qui vont tous les deux être des freemium de toute façon. Et ils vont se tirer une balle dans le pied, si vous voulez mon avis.
Et qui sont tous les deux pas finis. Non mais ça... Enfin, si vous voulez, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup, quoi. Du coup, toi, Pixel, t'es hypé ou tu te méfies?
Non, non. Non. Bah non, parce que pour Survarium, les développeurs avaient promis un mode solo qui est toujours pas là, et je pense qu'il sera jamais là.
Oui.
Et là, Survarium...
Il le dit avec une telle tristesse.
Bah, si tu veux, quand t'es fan de Stalker, c'est toujours un crève-cœur, hein, n'est-ce pas, Pixel?
Voilà. Et puis, ce sera pas du solo, hein, ce sera du bête Battle Royale, donc... Je suis pas hypé du tout, quoi. C'est...
Ouais, parce que
ça
est-ce qu'on en a
pas
un peu le plein cul des Battle Royale, hein? Je te pose la question, ATH, en vrai.
Si, clairement, enfin, les Battle Royale, c'est bon, quoi. C'est le truc qui fonctionne. C'était un peu comme les MOBA à une époque, tout le monde voulait les siens. Au final, il reste que les plus forts. Après, enfin, moi, ce que je trouve cool, quand même, c'est que ils vont essayer de changer quelque chose. C'est-à-dire que là, apparemment, la menace ne sera pas que les autres joueurs. Et puis, le fait que ça se déroule aussi dans l'univers de Stalker, qui peut donner, en fait, on va dire, une cartographie et vraiment un visuel différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de jeu-là, ça peut être sympa pour le jeu, mais après c'est vrai que voilà, Battle Royale, au bout d'un moment t'as envie de te dire, quel jeu ne va pas être Battle Royale? Même le prochain Call of Duty est un Battle Royale, tu vois, c'est le marché saturé, quoi.
Moi, c'est le problème que j'ai toujours avec cette industrie, c'est que quand il y a un truc qui marche, tout le monde s'engouffre dans la brèche, quoi. Il y a personne qui réfléchit, qui se dit, alors... Peut-être que maintenant qu'il y a 2-3 jeux qui trustent les ventes, c'est peut-être un peu trop tard pour se lancer. Ou alors va vraiment falloir qu'on mette un truc hyper original. Parce que moi, je veux bien, tu vois. Alors ouais, on va mettre des mobs, on va mettre une ambiance à la Stalker. Ok, mais ça, c'est des twists, tu vois, qu'on met au gameplay. Moi, honnêtement, je vois pas d'argument pour l'acheter au jour d'aujourd'hui. Hein. Et c'est bien ça mon problème, c'est que La plupart des gens qui se lancent là-dedans, tu vois bien, c'est l'appât du gain. Il n'y a pas de vrai projet ludique derrière. Ils sont pas dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter de vraiment concret aux gens Battle Royale? Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce truc-là? Non, non, vas-y, le Battle Royale, ça marche, on y va.
Non, mais c'est exactement ça. Et en plus de ça, enfin, l'histoire nous l'a toujours montré par le passé. C'est que quand il y a un joueur qui marche, bah, tu vas avoir deux concurrents qui vont se tirer la bourre, et puis le reste, ils vont se manger les miettes. Je parlais du MOBA tout à l'heure, il y a Dota 2 qui fonctionnait et League of Legends. Citez-moi en un autre qui fonctionne aujourd'hui. Alors après, moi, je veux bien que les gars peuvent s'inspirer d'une œuvre. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Tout le monde s'inspire de tout le monde tous les jours. Il n'y a pas de souci. Après, c'est juste que, voilà, il faut essayer de trouver quelque chose de vraiment différent. J'ai bien aimé le concept de, par exemple, de Battle Royale. Est-ce qu'il y a un truc pertinent que je puisse faire pour, soit améliorer le genre, soit aller plus loin de ce qui a été fait? Et là, peut-être que tu vas te démarquer. Mais si tu fais juste un copier-coller de la chose telle quelle, bah, ça va pas fonctionner. Tous ceux qui ont voulu surfer sur le succès de Call of Duty, ils ont pas réussi. Il y a Battlefield qui a réussi, mais c'est pas vraiment du Call of Duty, parce que c'est vraiment, des grandes équipes qui s'affrontent, etc. On n'est pas sur la même
Titanfall, j'écris ton nom, n'est-ce pas?
Ouais, pourtant, qui a été fait par les mecs qui ont fait Call of Duty de ce qu'il est aujourd'hui, quoi.
Bon. On va enchaîner avec l'arnaque de la semaine. Ben, c'est un jeu que Mordrain, il était hypé quand il l'a vu, et puis le jeu il est sorti et Mordrain, il était beaucoup moins hypé. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi?
Ouais, donc on va parler de Tennis World Tour qui est sorti le 22 mai dernier. Et bah, comme tu l'as dit, le jeu a pas eu un bon accueil. Et du coup, il y a eu une interview du fondateur de Big Ben Interactive, donc qui a fait le jeu, pour dire que à quelques semaines de la sortie, le jeu était fini à 20%. Mais qu'ils avaient quand même décidé de le sortir à la date prévue parce que c'était la bonne période, parce que les campagnes marketing étaient déjà engagées, parce que c'était la période de Roland Garros et donc que c'était le moment de sortir le jeu et puis advienne que pourra, on fera des patchs, on se démerdera pour rattraper le truc après. Voilà, en gros, c'est l'histoire de ce jeu.
Marketing.
Quoi.
Bon, Morgan, je crois qu'on a trouvé le Patrick Lelay du jeu vidéo.
C'est assez incroyable, comme en tout cas d'assumer ça à ce point-là, c'est assez dingo.
Oui.
Je voulais vous expliquer pourquoi ça m'intéressait, parce que ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu un vrai jeu de tennis de simulation. Moi, le dernier dont je me souviens vraiment, c'est Top Spin 4, évidemment.
C'est ça.
Et forcément, je regardais cette sortie d'un œil un peu incertain et curieux, parce que déjà, un éditeur comme Big Ben Interactive, c'est pas un éditeur qui a véritablement la confiance des joueurs, on va pas se mentir. Et du coup, je me disais, si ça marche, ça peut être cool. Bon, le fait est que ça marche pas spécialement. Mais j'aimerais voir à l'avenir qu'ils prennent un petit peu de galon. Ce qui m'emmerde dans leur stratégie, en fait, c'est qu'ils assument tout à fait d'avoir une version zéro qui publie comme ça. Et du coup, alors je comprends ce qu'ils essayent de faire, mais derrière, en fait, quel message t'envoies aux joueurs? Si tu dis l'an prochain il y aura un truc un peu plus peaufiné et peut-être que dans l'année on va vous donner le patch dans lequel vous pourrez jouer en ligne, parce que à l'heure actuelle le jeu est sorti mais on peut pas jouer en ligne.
Sur un jeu de tennis, on est d'accord. Hein.
C'est un jeu de tennis quoi, c'est quand même la base. Du coup, il va falloir attendre, je pense. Et ce qui est assez marrant, c'est que pour lui en fait, il va pas être déficitaire dans son entreprise parce que il en a balancé 500 000 à des distributeurs mais qui n'ont pas le droit de leur renvoyer le jeu. Du coup, ils seront obligés de vendre tout ce qu'ils ont. Alors, on sait pas à combien ils vont le brader, mais intéressant comme concept, mais c'est pas comme ça que Big Ben Interactive va passer sur le podium des éditeurs français, puisque on rappelle qu'ils sont quatrième. Je pense que c'est pas des méthodes qui sont très très recommandables.
Non, mais surtout que Big Ben, on les connaît parce qu'ils fabriquaient des manettes toutes pourries déjà à l'époque. Quand un pote t'invitait chez lui et donnait la manette Big Ben, c'est soit ton pote t'aimait pas, soit qu'il avait vraiment pas d'autres manettes à te passer, mais...
Soit qu'il voulait que tu perdes aussi.
Ouais. On va dire que tu jouais avec manette Big Ben, t'avais déjà un très très gros désavantage.
Ah, moi, je préférais pas jouer que de jouer avec un truc pareil.
Et là, en fait, la justification qu'il donne, elle est juste magnifique parce que, en gros, on sacrifie le jeu sur l'autel du marketing.
Ouais.
Les mecs, ça fait je sais pas combien de temps, on a pas eu une vraie simulation de jeu de tennis, et là, ils reviennent et ils nous font un jeu de merde. Juste pour faire rentrer du fric le plus rapidement possible. C'est les mecs, en fait, ils prennent les joueurs pour des cons, mais ils essaient même pas de s'en cacher. Et je sais pas si je trouve ça plus terrible, ou bien si je trouve ça mieux que d'essayer de mentir aux gens et de cacher un peu la misère, tu vois.
Imagine les développeurs à qui on dit ça. Parce que les développeurs, décemment, ils peuvent pas dire, ok, dans 3 semaines, on peut sortir. ils vont forcément demander une un rab, tu vois, ils vont demander un délai, un truc comme ça. Et l'éditeur dit non non, on a déjà commencé la campagne marketing, vous êtes pas prêts, c'est pas grave, on sort. C'est incroyable quand même. Imagine, tu taffes et tu sais que le produit que t'es en train de faire, ben ça va être de la merde.
Ouais, non, mais c'est ça.
Quel développeur fait ça, tu vois, c'est pas possible.
Ah non, mais moi, ce que je trouve fabuleux, c'est le mec, il te dit clairement qu'il t'a enculé et qu'il va te la remettre l'année prochaine et que tu vas redemander en plus, tu vois. C'est-à-dire que, je sais pas, à quel moment... Attendez, mais admettez que c'est quand même fabuleux, quoi. C'est le mec, il assume, mais totalement en toute détente. Alors, excusez-moi, mais là, c'est... non, moi, je dis chapeau l'artiste. Bon, après, je suis pas...
On a perdu Tyran.
Ça y est.
Je suis pas sûr qu'il va en vendre beaucoup l'année prochaine.
Est-ce qu'il va en vendre beaucoup cette année déjà?
Ah mais ce qui est génial, c'est qu'ils en prévoient aussi un deuxième pour 2020-2021. C'est-à-dire que les mecs, ils voient vraiment à long terme sur cette licence, même s'ils l'ont déjà tué dans l'œuf, quoi. C'est génial.
La stratégie d'échec.
C'est la stratégie du mec bourré.
Oh ouais. Putain, ça, il faut que je présente derrière.
Oui, bah ouais, parce que le sujet suivant, il est pas triste en plus.
Putain, on me dit en plus. Excuse-moi, vas-y, ATH, je coupe le micro, je m'en remets là parce que j'en peux plus.
Bah attends, c'est dur d'enchaîner juste derrière ça, quoi. Laisse-moi reprendre un peu mes émotions aussi. Bah, en fait, moi, ce que je voulais dire, tu vois, c'est que cette année, il y a quand même deux jeux de tennis qui sont sortis. Il y en a un autre qui s'appelle Out International Tennis. Et malheureusement, il a pas l'air très bien non plus. Enfin, il a l'air mieux que le que Tennis Big Ben.
Il est tout aussi nul.
Ouais, mais il est un peu mieux, si tu veux.
Bah, au moins, tu vois, eux, ils ont pas dit en interview qu'ils allaient te la remettre l'année prochaine, tu vois, donc.
Mais par contre, tu vois, c'est un petit peu dommage. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de tennis et on a deux jeux de merde qui arrivent. Mmh. Et je me demande si finalement le meilleur jeu de tennis simulation qu'on aura cette année, ça sera pas Mario Tennis Access. Alors que c'est un jeu totalement n'importe quoi. C'est dommage que en fait le meilleur jeu de simulation, ça soit un jeu totalement arcade.
Non mais tu vois, par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a des mecs qui réfléchissent pas et qui se disent pas à un moment donné, on est sur une niche où il y a personne, où ça fait des années que les gens attendent qu'il y ait un vrai jeu de tennis bien foutu. Et ça vaut peut-être le coup de le reporter. Non, non, c'est on réfléchit pas, on s'en fout, on ship le jeu, rien à foutre. De toute façon, ils achèteront, c'est tous des connards.
Mais quand tu vois là les deux jeux qui sortent aujourd'hui, tu dis putain, mais on en est loin de la rivalité à l'époque où de Virtua et Tennis.
C'est ça.
Et de Top Spin, quoi. Il y avait deux bons jeux de tennis qui sortaient à intervalles réguliers comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, ça n'existe plus. Moi, je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est un sport que je préfère plus jouer que regarder à la télé. Et je me dis qu'il y a un petit jeu de tennis qui sortait comme ça avec un bon petit mode carrière, ça aurait pu être sympa. Mais là, non, en fait, il y a rien d'intéressant dans ces jeux-là, quoi. C'est dommage.
Bon, bah, Morgan, on va enchaîner, hein. Oui. Ça va être dur aussi, là.
Ça va être dur parce qu'on parle de Valve. On en a parlé quasiment toutes les semaines, en fait, depuis un mois. Vous savez, avec ces espèces de bisbilles du « on vous enlève une certaine catégorie de jeux, en plus, finalement, on les remet, et puis, bon, alors, c'est controversé, machin et tout, mais bon, qu'est-ce qu'on fait ?» Et au final, ça y est, on a la réponse, c'est officiel. Valve a répondu. On ne fait rien. C'est-à-dire que ce n'est pas leur rôle de choisir ce qu'il y a sur le magasin, ce que tu peux acheter ou ne pas acheter. Ce n'est pas à eux de choisir quel est le contenu que le développeur a le droit ou pas de créer. Ensuite, on nous dit, textuellement, hein, je cite, on a décidé que la bonne approche, c'était d'autoriser tout à l'intérieur du Steam Store. Sauf les choses que nous allons décider seront illégales ou simplement du trolling. Ok, donc c'est toi qui décides de la chose qui est illégale ou pas. Très bien, c'est intéressant à savoir. À savoir que ils parient sur l'honnêteté des développeurs durant cette phase de soumission de leur jeu. Ils ont précisé qu'ils veulent pousser les développeurs à parler plus en détail des séquences potentiellement problématiques dans leur contenu. Bon, on sait très bien comment ça va se passer, hein, mais ils menacent en tout cas de cesser toute relation commerciale avec les développeurs qui ne le feraient pas honnêtement. Et alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le consommateur? C'est que, ils nous le disent textuellement, sur le Steam Store, il va y avoir des jeux dont le contenu ne te plaira pas, voire même va t'offenser, voire même un contenu que tu peux potentiellement haïr et que tu peux potentiellement penser que ça ne doit pas exister. Ça, c'est la politique de Steam désormais. Tout a le droit d'entrer sur le Steam Store, sauf si c'est jugé illégal par Valve. Sauf si c'est jugé comme du trolling par Valve.
Alors, définition du trolling.
Mais même, définition de l'illégalité selon Valve, c'est quoi? Parce que, y a-t-il des lois régies par Valve? Je ne crois pas.
Ah si, parce que Valve est puissant et contrôle le marché PC, donc en gros, c'est comme si c'était dans une démocratie, c'était le gouvernement qui essayait de te passer un 49-3.
Et il précise évidemment qu'en prenant cette décision, la petite quenelle au passage, c'est que tous les jeux qui seront sur le Steam Store, du coup, ne reflètent pas les valeurs de l'équipe de Valve. Donc en gros, on est là, on se dédouane totalement, main en l'air, on n'a pas choisi en fait ce qui est sur le Steam Store, puisque tout a le droit d'y venir. Donc c'est-à-dire que potentiellement, il pourrait très bien y avoir un jeu d'extrême droite qui arrive sur le Steam Store par exemple. Parce que les courants d'extrême droite sont pas illégaux, a priori.
Surtout aux États-Unis.
Surtout aux États-Unis, on peut très bien à l'avenir penser qu'un jeu qui promeut les valeurs d'extrême droite, voire du néonazisme, arriver sur le Steam Store, parce que, c'est pas illégal. Et de toute façon, l'approche de Valve, c'est hands off. Donc, nous, on accepte. Et puis, si ça te plaît pas, il faut que toi, tu fasses l'effort de filtrer sur ta page, sur tes recommandations, en fait, ce que tu ne veux pas voir.
Personnellement, je suis assez partagé. C'est-à-dire que, vous le savez, j'ai toujours dit que j'exécrais moralisme à la Apple, c'est-à-dire une boîte privée qui décide pour les gens ce qui doit apparaître sur son store et ce qui doit pas apparaître, et qui censure des œuvres, ce genre de choses. Donc le fait qu'ils aient cette approche-là, fondamentalement, personnellement, ça me dérange pas, sauf que, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'ils n'assument pas derrière. C'est-à-dire que tu dises que tu autorises à peu près tout d'être publié sur ton store, très bien. Mais par contre, dire que ça n'implique pas les valeurs morales de ton équipe, c'est totalement faux. Le simple fait de tout autoriser, ça veut dire au minimum que tu es un poil libertarien et que donc tu appartiens à certains courants de pensée politique, etc. Et ensuite, je suis désolé, si t'es propriétaire du magasin, t'es responsable de ce qui est publié chez toi, quand même, un peu, hein, faut pas déconner. Donc tu en assumes les conséquences. Et le truc sur lequel j'aimerais avertir Valve, c'est que, certes, je pense que vous allez vous baser sur la loi américaine. Et c'est vrai que la loi américaine permet beaucoup de choses. Par contre, il y a des choses qui passent aux États-Unis qui ne passeront pas dans un pays, par exemple, comme la France. Et je pense que si vous laissez vraiment tout faire, et c'est un avertissement que je donne, vous allez avoir des petits soucis judiciaires à un moment donné. Comme vous avez pu en avoir dans d'autres domaines, hein, pas dans le domaine du contenu des jeux, mais par exemple, vous avez eu des soucis avec l'Australie à cause de votre politique de remboursement qui n'était pas conforme à la loi australienne. Moi, je pense qu'à un moment donné, si vous ouvrez les vannes totalement, comme vous le dites actuellement, enfin, là, concrètement, en vrai, ils assument la politique qu'ils font depuis des années, hein. Juste petite précision au passage, c'est pas nouveau ce qu'ils disent là, c'est juste que là, ils assument officiellement. À un moment donné, moi, je suis persuadé que vous allez avoir des emmerdes. Moi, c'est tout ce que je dis. Par contre, il y a quand même un point qui, pour moi, est problématique. C'est que, certes, je vous retire pas le droit de ne pas vouloir regarder le contenu moral des œuvres. Par contre, vous n'avez aucune excuse pour la qualité des finitions des œuvres. Parce que là, je veux dire, c'est quelque chose d'objectif. Alors, est-ce que le jeu, c'est un asset flip? Je rappelle, un asset flip, c'est des jeux assemblés vite fait avec des assets achetés sur le store de Unity, Unreal et machin. On te fait un jeu, on appelle ça un jeu, tu vois, on le vend, c'est fait en 10 minutes top chrono, et c'est de la grosse merde. Donc, vous allez pas me faire croire qu'il n'y a pas moyen de virer du store tous les asset flip, tous les jeux qui sortent buggés jusqu'à la moelle. Ah oui, soit dit en passant, dans le même poste, ils disent qu'ils font du contrôle qualité, hein. Vous vous foutez vraiment de notre gueule, hein.
Ça dit en passant. Donc là, par contre, là-dessus, enfin, il y a juste zéro excuse, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est des critères objectifs. Il y a tout à fait possibilité de faire ça sans mettre le feu à Internet. Et aussi, dernier point, je lis à un moment donné, je crois dans le poste, oui, de toute façon, quoi qu'on fasse, on mettra toujours quelqu'un en colère. Alors, spoiler alert, c'est pas exclusif à Valve, hein, c'est même pas exclusif aux grosses boîtes, c'est ce qui arrive dans toutes les boîtes qui proposent un service, en fait. Dès que tu changes un truc, et j'en sais quelque chose, hein, je bosse dans une boîte qui fait du service et je suis à l'outline, hein, je sais ce qui se passe, hein, quand tu fais des modifications qui plaisent pas des clients, quand t'as des clients qui sont pas contents, bah oui, c'est le lot quotidien de toutes les boîtes, en fait. Donc, dire que, oui, non, mais en fait, nous... on refuse de prendre des décisions parce que sinon on va mettre en colère les gens, t'assumes pas le fait de faire du commerce, quoi. Je suis désolé, hein, quand tu fais du commerce, à un moment donné, tu fais certains choix, etc. Et forcément, tu vas mettre des gens en colère, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Enfin bref. ATH ?
Ouais, moi, ce que je trouve en fait insoutenable avec Valve, c'est le fait que ils prennent pas parti dans ce qu'ils veulent censurer ou pas. C'est-à-dire que ils censurent en fait ce qu'ils ont envie. Et on sait pas ce qu'ils ont envie de censurer ou pas. Donc, à partir de ce moment-là, toi, tu vas te lancer dans la création d'un jeu, et tu sais pas si Valve peut te le refuser pour X ou Y raison. Et ça, c'est un petit peu dommage que ça ne soit pas très clairement défini. Par exemple, si demain, moi, j'ai envie de faire un jeu qui parodie l'univers de Valve, et que Valve n'apprécie pas cette parodie...
Ah, bah, c'est du troll, ATH, attention.
Ouais, mais admettons que je fais un jeu qui est bon, bah c'est ma liberté d'expression, tu vois. C'est,
Ah ouais, mais c'est du troll, ATH. Valve a dit que le troll, ils acceptaient pas. Bon, soit dit en passant, on sait pas ce que c'est du troll hein, pour eux, hein, mais...
Ouais, voilà, non mais c'est ça, c'est que c'est pas clairement défini. Et aussi, donc, moi, ça me pose un problème que n'importe qui peut développer un jeu et le publier sur cette plateforme. Tu vois, un jeu qui est fait par des mecs néo-nazis qui encouragent le nazisme, ça me choquerait. Ça me choquerait beaucoup. Et ça, ce genre de jeu-là n'a pas à apparaître sur cette plateforme.
Soit dit en passant, ce serait parfaitement illégal en France. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai toujours dit.
Et en Allemagne aussi.
Je suis pour, oui, en Allemagne, oui, surtout en Allemagne. Putain. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit que moi, la limite, c'était la loi. Mais je parlais de la loi française, hein, pas de la loi américaine, qui est beaucoup plus open.
Enfin, on est des êtres humains. Il y a des trucs sur lesquels la morale te dit que c'est mal, tu vois. Je dis pas que ces sujets-là ne doivent pas être abordés. C'est quelqu'un qui a envie d'en parler, qu'il en parle.
Ah non, mais une chose est d'aborder un sujet, c'en est une toute autre d'en faire la promotion.
Exactement. Tu sais très bien que voilà, c'est des choses qui sont totalement abjectes et qui n'ont rien à foutre là. Donc moi, j'aime pas trop en fait la langue de bois que fait Steam. On sait pas ce qui va être censuré, ce qui va pas être censuré, et du coup, c'est un peu la roulette russe. Tu peux faire un jeu qui peut être très bon, mais il y a un truc qui plaît pas à Steam dans ton jeu pour X ou Y raison, et du coup, ça, ton jeu ne va pas être publié.
Alors moi, mon problème avec la position de Valve, c'est que t'as l'impression qu'ils veulent le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, quoi. C'est-à-dire que, en gros, ils n'assument pas, mais ils se réservent quand même le droit derrière de faire ce qu'ils veulent, parce que article 49.3, on rejette le troll. Mais qu'est-ce que le troll ? C'est le flou de Valve, le flou ambiant qui m'emmerde. Dernier point, parce que je voudrais quand même préciser une chose, j'en entends déjà nous dire, oui, Game Info, vous êtes jamais content, un coup vous dites que Valve devrait pas censurer les jeux porn, un autre vous dites que ouais, c'est scandaleux qu'ils autorisent tout sur leur plateforme. C'est pas une question de tout ou rien, quoi, si vous voulez, il y a peut-être un juste milieu à avoir, quoi. Moi, par exemple, ce que je reprochais à Valve la semaine dernière, c'est que il n'est pas des conditions claires. C'est-à-dire que, par exemple, pour les jeux porn, je trouvais pas ça normal qu'on dise à un développeur qui avait été accepté sur la plateforme, qui respectait les guidelines de Valve, casse-toi maintenant. Ce que Valve pourrait faire, tout simplement, c'est faire des règles pas déconnantes où on dit ça, c'est accepté. Alors, les nazis, c'est pas accepté. Le pédoporn, c'est pas accepté. Ça, c'est pas accepté. Tu vois, sur des sujets quand même, comme dit ATH, tu vois, où n'importe quel être humain pourrait se dire, ouais, non, là, quand même, ça pas trop, ça passe sur un store, quoi. C'est juste ça qu'on leur demande, en fait. On leur demande pas de censurer des œuvres ou, voilà. On dit juste, le basique minimum, tu peux quand même faire un effort pour dire dans tes ganes, non, ça, on en veut pas. Parce que, voilà, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer?
Voilà, non, mais c'est juste ça qu'on demande. Après, moi, par exemple, entre la politique de Steam et de Apple, je trouve que celle de Apple est au moins plus claire, tu vois. Apple, ils disent pas de sexe, bah, c'est pas de sexe, tu vois. Au moins, tu sais ce qu'il ne faut pas mettre dans les jeux si tu veux pas être
sur
la store.
Par contre, je trouve la politique d'Apple beaucoup plus nuisible, mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Hein. Maureen?
Ouais, je voulais juste dire que, en réalité, notre discours, il change pas. Quand on dit, il faut pas qu'ils censurent ces jeux-là, parce que c'est dans les guidelines, ou quand on dit il faut pas qu'ils acceptent tout et n'importe quoi. En fait, on dit la même chose depuis des mois et des années. qu'on veut que Steam fasse son boulot, à savoir de la curation. Depuis le début, c'est ce qu'ils se refusent à faire. Et là, on en est au summum du truc, c'est-à-dire qu'ils prennent la décision d'ouvrir encore plus les vannes. C'est-à-dire que c'est tout le contraire de tout ce qu'on a toujours dit dans ce podcast. Là, on s'engage dans une phase qui, potentiellement, peut faire énormément de mal aux jeux vidéo, parce que c'est quand même la plateforme de référence, qu'on le veuille ou non, qui va potentiellement se lancer, en fait, dans la commercialisation de jeux qui sont nauséabonds. Mm. Et là, ça peut être extrêmement problématique, surtout qu'on sait, en plus, que la population gamer n'est pas toujours toute rose.
Oh, mais bien sûr, mais ça, c'est comme partout, Mandraine.
Ouais, non, mais là, je pense que ça peut être vraiment, vraiment très très nuisible, quoi.
Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi, par exemple, dans le jeu vidéo, on devrait mettre certaines barrières, alors qu'il n'y a pas ces barrières-là dans le cinéma ou dans la littérature.
Oh, t'as des guidelines extrêmement précises dans le cinéma, ATH.
Ouais, non, mais je sais, mais par exemple, le cinéma s'autorise pas mal de sujets. Après, quand il y a des films où il y a de la censure, c'est eux-mêmes qui censurent eux-mêmes. Mais si c'est un film indépendant, il peut très bien en parler librement, tu vois. C'est juste qu'il ne correspond pas aux standards
actuels. Il peut très bien pas être commercialisé, ce film. Il y a des guidelines précises qui sont mises en place par des conseils
surtout en France,
de censeurs, hein. Surtout en France, mais aux États-Unis c'est pareil. T'as là une association qui s'appelle la MPAA aux États-Unis qui régit en réalité toute la commercialisation de ton film, qui va décider si ton film il est PG, c'est-à-dire qu'il est pour tout public, s'il est PG-13, c'est-à-dire pour tout public, un gamin de 13 ans il doit être accompagné par quelqu'un, s'il est NC-17, si voilà, si ton gamin il est en dessous de 17 ans il doit absolument être accompagné par quelqu'un, s'il est rated R, c'est-à-dire que ben, il faut présenter une pièce d'identité pour pouvoir entrer, il y a des guidelines qui sont extrêmement précises, et là ça n'a rien à voir avec la situation de Steam. Et en France c'est pareil, c'est des guidelines qui sont précises et qui te disent ben, s'il y a telle scène, cette scène-là, en fait, je t'explique pourquoi je la refuse et pourquoi je catégorise ton film dans cette catégorie-là et pas dans celle d'en dessous. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est toujours aussi obscur et en plus de ça, on ne définit pas la raison pour laquelle tu peux être retoqué du store de Steam. Donc c'est tout ce qu'il faut pas faire dans cette histoire.
Mais bien sûr, moi je suis d'accord avec toi. Mais je veux dire, le cinéma a traité de pas mal de sujets que le jeu vidéo n'a toujours pas abordé parce qu'il s'en empêche, etc.
Bien sûr.
Et moi, ce que je veux, c'est que la frontière soit exactement la même et que le jeu vidéo puisse aborder les mêmes sujets que les autres médias. Et c'est pas parce que c'est un média où on est interactif qu'il faut qu'on se prive de telle ou telle chose si on a envie d'en parler, tu vois. Parce qu'on dit que le jeu vidéo est passé à l'âge adulte depuis peu. Enfin, pour moi, il est encore à l'âge adolescent, tu vois, quand on voit les scénarios qu'on se mange aujourd'hui.
Pour conclure, ce qui me fait peur, c'est que Valve vient de reconnaître officiellement qu'on pouvait sortir n'importe quoi chez eux. Les vannes jusqu'ici, elles étaient ouvertes. C'est juste que les gens, ils avaient un doute. Mais là, maintenant, t'as le consentement officiel de Valve pour sortir ce que tu veux. Et j'ai peur qu'à un moment donné, à force de laisser faire n'importe quoi, t'aies une réaction contraire en face qui va se produire. Et qu'on va avoir une régulation par la loi, hein, qui va nous tomber sur la gueule, à un moment ou à un autre. Et à ce moment-là, on va pas rigoler. Voilà. On va maintenant passer à notre jeu du moment, et le jeu du moment, Mandraine et Men, c'est le multijoueur de Stardew Valley.
On va préciser que c'est une mise à jour qui est en bêta, donc à l'heure actuelle, le multi de Stardew Valley n'est pas finalisé, même s'il est déjà très stable, et on va en parler d'ailleurs. C'est une mise à jour qui pèse pas très très lourd, mais qui est en développement, du coup évidemment il y a des mises à jour assez régulières, même si elles sont assez... elles pèsent pas très lourd, en général. Peut-être commencer par le un sujet qui est hyper important, notamment pour les joueurs qui sont assez habitués à créer des serveurs pour jouer en ligne avec leurs potes.
J'allais demander, est-ce que Ben, le jeu, a passé le Mordren test?
Et du premier coup, il l'a passé même.
Alors attention, Mordren, explique-nous ça, parce que c'est fascinant. Non, parce que il faut quand même que nos auditeurs sachent la vérité. On a quelqu'un ici qui s'appelle Mordren et qui a la guigne. Enfin, moi, je sais pas comment expliquer autrement. À chaque fois qu'on fait un jeu multi avec lui, c'est une catastrophe. Il y a toujours un problème. Enfin bref, ne laissez jamais Mordren configurer un serveur, ça va être une catastrophe. Donc, si le jeu a passé le Mordren test du premier coup, c'est que ça va être relativement simple.
Ouais, c'est assez simple, tu entres dans le menu titre, il y a un petit bouton coop avec lequel tu mets soit rejoindre une LAN, soit être l'hôte. T'as un code d'invitation que tu peux donner à un de tes camarades. Au tout début, tu vas choisir combien de joueurs ont le droit d'entrer dans ta partie, c'est-à-dire que tu peux très bien lancer une partie et construire trois cases. Et ces trois cases, ça va être les endroits où tes partenaires vont entrer et vivre. Tu peux très bien lancer une partie en solo et ensuite la brancher en multi, parce que tu auras choisi de créer les cases de ces personnages-là. Bien sûr, tu peux aussi lancer une nouvelle partie et dire « Construis-moi une, deux, trois cases, parce que j'ai envie de jouer avec un, deux, trois partenaires. » Et donc du coup, c'est hyper facile et c'est immédiat. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à paramétrer, tout est fait pour toi. L'autre partenaire a juste à rejoindre le serveur et c'est parti. Donc c'est hyper facile et ça n'a rien à voir avec la configuration d'un serveur Minecraft par exemple, un serveur Ark où c'est le bordel et 3 fois sur 5 ça marche pas chez moi. Du coup, voilà, si vous avez peur de ces choses-là, n'ayez pas peur, Stardew Valley fait les choses pour vous.
On est d'accord, c'est 2 joueurs hein, pour le multi.
Bah, tu peux jouer jusqu'à 4 en officiel,
de 2 à 4.
À l'heure actuelle. À savoir qu'il y a des mods qui permettent de jouer à un nombre illimité. Je sais pas si c'est très intéressant, mais tu peux. Et puis, il y a un mod qui va permettre de jouer en cross-platform. À savoir que les développeurs travaillent également sur une version officielle de cette feature-là, qui est évidemment très importante pour un jeu qui est très multiplateforme. Donc évidemment, ça peut être très très intéressant si vous avez des potes qui jouent sur Switch, par exemple.
Bon, on va passer à la suite. Ben, j'avais une question à te poser.
Mm-hmm.
Toi qui as fait le test du jeu de base, qui connais bien le jeu, qui l'a un peu saigné, hein, disons-le, est-ce que tu trouves que le multijoueur change la dynamique du jeu, et si oui, comment?
Alors, clairement, il la change. C'est même un jeu presque différent dans son organisation, enfin même pas presque, qui est différent dans son organisation. Alors, déjà, notez que là, le jeu, c'est exactement le même, sauf qu'on joue à deux. L'histoire est la même, les events sont les mêmes, etc. C'est juste que, il y a le host qui est le joueur solo, et il y a un joueur qui peut être aléatoire, parce que moi, je rejoins Mordren, mais si je dis pas de bêtises, Mordren, n'importe quel joueur pourrait venir dans ta partie aussi à ma place.
Oui, bien sûr.
Ouais. C'est pas bloqué, voilà. Donc, ce qui change énormément, bah, c'est l'organisation. Seul, c'est un jeu qui peut être très long parce que les journées sont courtes, elles durent 6 ou 7 minutes de temps réel et il y a beaucoup de choses à faire. Du coup, pour faire ces choses-là, il faut passer beaucoup de temps et ça peut rebuter certains joueurs parce que bah, tu peux pas faire tout ce que tu veux tout de suite, il y a beaucoup de farm, etc. Et là, c'est vrai qu'à deux, ça prend tout de suite une dimension où tu vas, entre guillemets, level up beaucoup plus vite. Tu vas beaucoup plus vite atteindre certains objectifs, avoir des objets meilleurs, découvrir des nouvelles zones, etc. Donc pour moi, c'est le principal changement, c'est que l'évolution est beaucoup plus rapide alors qu'elle peut être assez compliquée. Notamment pour des nouveaux joueurs.
Voire frustrante d'ailleurs, tu m'en avais parlé.
Oui, parce que alors moi, c'est vrai que j'ai une expérience dans ces jeux, donc quand j'y suis arrivé, je savais un peu m'organiser, mais je pense que pour les joueurs qui connaissent pas trop, les premières parties, typiquement, je pense que tu commences le jeu et au bout d'une 10-15 de jours, tu dis « Ah tiens, je vais recommencer du début quand même, parce que maintenant que j'ai pris l'habitude, je sais comment m'organiser, etc. Je vais repartir de zéro sur un truc un peu plus propre. »
J'ai une question par rapport au deuxième joueur, c'est-à-dire le deuxième joueur, c'est un joueur comme ça qui est créé aléatoirement, ou bien c'est on peut importer un joueur d'une autre partie et du coup il conserve quand même ce qu'il fait, ou bien finalement le deuxième joueur il conserve rien et c'est que l'host qui conserve l'avancée de...
Non, alors moi ça conserve tout, c'est-à-dire que moi à chaque fois que je rejoins la partie de Mordren, j'ai mon personnage avec toute son avancée qui est là.
Mais est-ce que ça te sert à quelque chose à toi? Si Mordren n'est pas là, est-ce que tu peux continuer à jouer
Non, C'est un personnage qui est dédié pour la coop, celui-là. En fait, tu gagnes pas sur ta partie solo, mais à vrai dire, dans ce jeu, l'expérience est importante, mais c'est pas ce qui fait non plus le... Tu vois, c'est pas comme dans un RPG où c'est vraiment beaucoup de level-up, etc. Là, il y en a aussi, mais disons que c'est pas un problème. Enfin, pour moi, en tout cas, ça n'est pas.
Le seul joueur qui peut jouer seul, c'est le host. C'est la personne, en fait, qui garde les données du serveur.
Voilà.
Mais c'est pas vraiment l'intérêt en réalité, tu vas plutôt attendre qu'il y ait au moins un deuxième joueur avec qui jouer, parce qu'en réalité si toi t'avances en tant que host, tu vas avancer également dans l'année, et du coup quand ton autre joueur sera prêt pour jouer, il va se rendre compte que tout a changé, c'est-à-dire que potentiellement t'auras joué une saison entière tout seul, et derrière il faut tout recommencer, donc... C'est un peu dommage, je pense, de se mettre à jouer en solo sur un serveur qui est...
Et puis même, ça sera ingérable de permettre au deuxième joueur d'avancer de son côté, ne serait-ce que pour cette problématique de calendrier dont tu parles. Parce que rappelons-le, Stardew Valley, c'est un jeu où tu dois gérer ton calendrier, en fait. Donc forcément, si tu prends ce paramètre en compte, direct, tu peux pas permettre au joueur 2 d'évoluer de son côté. C'est pas possible. Bon. Du coup, je vois bien le changement de dynamique qu'il y a sur le jeu. Par contre, j'avais une question, c'est en bêta, donc en cours de construction. Est-ce qu'il y a quelques soucis de finition pour le moment, ou est-ce que ça tourne?
Il y a eu quelques petits soucis, en global, ça fonctionne très très bien. J'ai joué 14 heures en coop, au total, et on a eu très très rarement des soucis. En réalité, le seul truc, et à mon avis, ça c'est une histoire de design, c'est pas un bug... Tu peux tout faire un petit peu de ton côté, c'est-à-dire que tu peux avoir Ben qui est à la mine, par exemple, pour la journée, et moi qui me balade à faire des emplettes, à planter des choses, etc., etc. Mais il y a des événements qui sont fixes dans le calendrier d'un mois de Stardew Valley, notamment des événements qui sont propres à la vie du village, et c'est des événements, en réalité, où si le host n'est pas présent, et ça nous est arrivé avec Ben parce que j'avais été en retard, pour rentrer dans l'instance, finalement. Et je suis arrivé, 5 minutes en retard. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Ben, lui, avait accès à cette instance d'événement, mais il pouvait pas la terminer, puisque moi, je n'y étais pas à l'intérieur. Et il n'y a que le personnage qui host qui peut lancer l'événement et donc permettre de terminer la journée. Donc ça, pour le coup, ça peut être assez dommage, puisque c'est le host, effectivement, qui détermine l'avancement de la partie et qui...
Ça, c'est un problème, par contre.
Là, pour le coup, nous, on avait été obligés de relancer la journée.
Ouais, moralité d'histoire, envoyez votre Ben à la mine pendant que vous faites les trucs cool, quoi.
C'est ça.
En fait, c'est ça, Ben, il se tape tous les trucs chiants, tu vois, et Marvin, il se tape la partie cool du jeu, quoi. Mais du coup, justement, par contre, question sérieuse, Ben, est-ce que l'expérience est pas trop frustrante pour le joueur 2?
Alors, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup joué en solo, donc peut-être que j'ai pas le même a priori. Aujourd'hui, au contraire, je me régale, parce que du coup, ça va beaucoup plus vite, c'est quand même assez dynamique, on peut se séparer les tâches, etc. Après, enfin, je sais pas, Mordrain, toi, du coup, c'est ta première partie, on y a tout le temps joué en même temps, donc on a un peu le même ressenti, je pense. Je pense pas que tu trouves ça frustrant ou quoi que ce soit.
Non, au contraire, puisque moi, je bénéficie déjà de tes conseils de joueurs expérimentés, et ça permet aussi... de se transmettre des tâches, c'est-à-dire que il y a une journée où on se rend compte que il y a une personne qui peut s'occuper de la ferme, des animaux, etc., une autre personne qui peut s'occuper de la mine. En général, c'est souvent moi qui vais à la mine, je sais pas pourquoi, parce que j'aime bien ça. Ça permet vraiment d'avoir une progression différente, et on le rappelle, et ça c'est une nouveauté, je pense que c'était pas le cas à l'époque où on a testé le jeu, chaque joueur en réalité a des niveaux dans une certaine partie, en fait, du farming, donc ça va être le minage, le combat, la pêche, etc. Et à partir du niveau 5, dans tel ou tel trait de personnage, vous allez choisir entre deux spécialisations. Et forcément, le fait de jouer à deux, ça permet d'avoir ces deux embranchements de capacités.
Et de mini-maxer comme des porcs.
Voilà. Et voilà. Mais ça, c'est plutôt cool, parce que du coup, tu te mets à réfléchir de « Attends, c'est plutôt moi qui devrais miner ce gisement-là, parce que j'ai une chance de faire popper deux minerais, par exemple. » Ou alors, c'est plutôt moi qui devrais récupérer ces plantations-là, parce que j'ai plus de chances d'en faire popper des choses de qualité. Donc, c'est assez intéressant, parce que t'as une vraie complémentarité qui se met en place, quoi.
Du coup, ça renforce la phase planning du jeu, était déjà un des points forts du jeu de base. Mais là, vous devez vraiment vous organiser.
Alors clairement, c'est un jeu sans micro, ça sert à rien d'y jouer à deux. Ça a aucun intérêt. Pour revenir sur l'histoire du planning, c'est plus simple du coup de le gérer à deux. Alors faut discuter, c'est clair, mais par contre ça permet de faire quand même beaucoup plus de choses, faut être honnête, ça accélère le jeu, et voilà, et ça peut enlever ce côté frustration pour certains joueurs qui diraient « Ah ouais, non mais aujourd'hui j'ai juste eu le temps de m'occuper de ma ferme, j'aurais bien aimé faire autre chose et j'ai pas eu le temps ». Alors après, je pense que les gens qui ont joué aux anciens jeux aiment ça, mais pour les nouveaux joueurs, je trouve ça quand même très intéressant aussi qu'il y ait ce multi de disponible.
On parlait des problèmes de finition. Qu'est-ce qui se passe en réalité quand il y a une déconnexion d'un des joueurs? Alors évidemment, quand c'est le host, il faut que tu recommences la journée, puisque le jeu sauvegarde à chaque fin de journée. Du coup, forcément, bah, si t'as une déco en pleine journée, tu recommences depuis le début de la journée. Donc ça, c'est pour le host, évidemment. Et quand t'as un joueur 2, un joueur 3, un joueur 4 qui est déconnecté, là, pour le coup, qu'est-ce qui se passe, Ben?
Eh ben du coup, moi, ça m'a fait perdre ma journée. Alors j'ai pu recommencer en milieu de journée, parce que je crois que ça m'est arrivé au moment où j'étais dans la mine, en plus. Donc j'ai repopé dans la maison en milieu de journée avec tout mon équipement, etc. D'accord. Donc ça a été plutôt bien géré, ouais.
Bon, pour terminer, messieurs, je vais vous poser une question simple. Vous avez passé un bon moment?
Ah ouais, clairement. Un super bon moment. Ouais. Moi, j'attendais d'avoir la mise à jour coop pour pouvoir me lancer dans Stardew Valley et je le regrette absolument pas. C'est vraiment un mode de jeu hyper intéressant et je pense même pas en fait que je me lancerai dans une partie solo parce que j'apprécie énormément la partie coop du jeu.
Même question, Ben.
Ouais, bah moi j'avais apprécié le solo et c'est vrai que là reprendre une partie de solo de zéro, ça peut être compliqué parce que bah le début c'est quand même assez long. Là du coup, c'est vraiment super bien. Je me re-régale.
Voilà. Bon, allez. On s'arrête là pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Peut-être qu'on parlera de l'E3 s'il y a des choses intéressantes. Encore une fois, c'est pas garanti. Moi, je vous le dis, l'E3, on en parle quand il y a des trucs intéressants. Sinon, on s'en fout. Allez, ciao.
Salut tout le monde.
Salut.
Salut.
Thank you very much. Goodbye.